Bonsoir à toutes et à tous. C'est bon, ça marche? Vous entendez bien? Voilà. C'est un moment plein d'émotions que nous allons vivre dans l'heure qu'il vient. Il y a un an, dans cette même salle, nous rendions hommage à Claude Michelet. Et il y a deux ans, dans cette même salle, nous rendions hommage à Denis Tillinac. Et je ne voulais pas commencer cette rencontre sans évoquer le souvenir des inséparables. Lorsqu'on m'a demandé de préparer cet hommage, je me suis dit que plutôt que de demander aux auteurs de parler de Michel Peyramort, j'aurais fait faire un petit travail, des formations professionnelles, d'aller lire, d'aller trouver dans les textes de Michel Peyramort ce qui pourrait dire qui était Michel Peyramort pour eux. Et puis je me suis dit qu'il y avait une école Michel Peyramort à Brive, avec des élèves Michel Peyramort qui sont là, et mettre des jeunes pour un hommage à Michel Peyramort, je trouve que c'était bienvenu. Et ces jeunes-là, qui sont là, qui ont un peu de trac, mais ça va bien se passer. Allez, on les applaudit pour leur montrer qu'ils n'avaient pas le trac quand même. Et ces jeunes, entre chaque intervention des auteurs de l'école de Brive, vont lire des haïkus de Michel Peyramort, vous savez, dans ce livre qu'il a publié il y a quelques années et qui s'appelle Les Méduses Bleues. Les Méduses Bleues. Donc je vous présente les personnes qui sont sur scène, vous en connaissez pour la plupart. Christian Signol devrait arriver, il doit voguer au gré de la rivière Espérance. Donc Martine Chavant, la fille de Michel Peyramort. Gilbert Borde, un tulliste de l'école de Brive. C'est conciliable. Yves Violier, un Vendéen de l'école de Brive. Jean-Guy Soumis, un Creusois de l'école de Brive. Et Vincent Brochard, qui était l'éditeur, celui avec qui Michel et Martine étaient en contact, qui va nous parler du livre posthume de Michel Peyramort qui est sorti il y a quelques jours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez... Ça va, c'est clair pour tout le monde. Alors tout de suite, la parole pour le premier haïku aux élèves de l'école Michel Peyramort, c'est-à-dire à Juliette, enfin aux deux Juliettes d'ailleurs, à Elijah et à Gaspard. Donc ils vont s'approcher du micro. Voilà.
Le soir, le petit dieu des haïkus vient frapper à ma fenêtre.
Ce soir, une charrette chargée de regains parfume le village.
La neige a pénétré cette nuit dans mon sommeil comme une voleuse.
Canicule, pluie furtive. Est venue ce matin caresser mes roses mortes.
Bravo, bravo. Alors, premier témoignage, on va se tourner vers Gilbert Borde, qui lui a fait un choix très original. Donc, il va vous l'expliquer et on lui donne 5 à 6 minutes pour. Oui, ça suffira. Allez.
Donc moi j'ai voulu approcher Michel Peyramort autrement que par ses romans, puisque tout le monde peut le faire. J'ai voulu l'approcher avec un de ses derniers livres, Inventaire avant fermeture. J'adore ce titre, même s'il est un petit peu cruel. J'ai voulu le faire parce que c'est là où, dans ses petits textes, ses paperoles, comme il disait, il se définit. Alors moi je vais commencer par la première fois que j'ai vu Michel. Moi, j'étais un tout petit bonhomme de rien du tout. J'avais écrit un petit roman qui a eu le mérite d'être publié, mais qui n'était pas extraordinaire et loin de là. Et j'avais fait une signature à Brive dans une librairie appelée Un Grand Avenir, qui s'appelait à cette époque la librairie des Trois Épis, toute petite librairie. Et évidemment, pour cette signature, est arrivé qui ? Michel Peyramort. Bon, pour moi, c'était un immense écrivain. Et je le vois arriver avec son petit appareil à photo, son petit carnet, et qui me pose des questions comme si j'étais quelqu'un d'important. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Donc ça a été... Et puis après, bon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de l'approcher de multiples fois. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était, je crois, au mois de février. Oui, de février 2021. Il avait 100 ans, passé, depuis un mois. Et on avait fait un déjeuner à Brive. Donc, ça a été très bien. Il y avait tous ceux qui sont là, y étaient. Et c'est 22, oui, c'est bien ça. Oui, oui, puisqu'il est né en 1922. Voilà. Et donc, il est... et je suis reparti. Moi, je pouvais prendre ma voiture qui était garée dans une rue. Et j'ai suivi donc Michel et Martine, sa fille, qui traversaient la place. Et Michel, tout droit, refusant que sa fille lui donne le bras, et marchait tout droit, sans canne, la tête haute. J'ai trouvé cette image extraordinaire. Un homme de 100 ans qui marche de cette manière, sans tituber, sans la moindre faux pas, vraiment avec une facilité extraordinaire. Donc voilà, ce sont les deux images, la première et la dernière, que j'ai eues de Michel Peyramor. Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de lui quand même, du personnage qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut se vanter d'avoir lu tous les livres de Michel Peyramor? Bon, il y a ici des gens très érudits qui ont beaucoup lu. Je pense qu'ils n'ont pas tout lu. Ça n'est absolument pas possible. Voilà. Alors, je crois que justement dans ce livre, il s'est beaucoup donné. Et il y a un passage, je crois que c'est la page 54, où il parle du vieux Brive. Du vieux Brive où son père, qui était un personnage, ton grand-père, exceptionnel, extraordinaire, peut-être un peu anarchiste, oui, voilà, mais en tout cas qui savait faire ses affaires et qui avait sa première imprimerie. Pourquoi je dis ça? Parce que Michel était tout gamin, mais il a grandi très rapidement et son père, qui ne lui faisait pas beaucoup de cadeaux, l'a mis à la linotype. Alors, vous savez pas ce que c'est une linotype? Moi, je le sais. Quand j'étais au Populaire du Centre, il y a très, très, très longtemps, la linotype, c'était la machine avec laquelle on composait le texte et on faisait des lignes en plomb. Et à la linotype, il avait donc appris à composer le texte. Et un beau jour, j'ai trouvé dans un grenier chez moi, côté de Tulle, c'est vous dire que c'était déjà le bout du monde pour Michel, eh bien, un recueil de poèmes d'Alexandrin, extraordinaire. Donc, je l'ai lu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais c'est pour dire que tout le monde, personne n'a lu entièrement Michel Peyramor. Voilà. Et alors, il y a aussi un autre passage de son œuvre qui m'a beaucoup plu. Michel, contrairement à ce qu'on croit, n'était pas un être. Il avait une façon de parler souvent un peu légère, mais ce n'est pas vrai. C'était un être très profond qui aimait énormément la musique, et par là, je le rejoins bien sûr. Et dans un livre, je ne me rappelle plus du titre, mais on le retrouvera, dans lequel il raconte George Sand et Chopin en Espagne. Et il y a dans ce roman quelque chose de merveilleux, c'est le transport du piano entre Paris et l'Espagne. C'était, à cette époque-là, transporter un piano à queue, parce que Chopin ne pouvait jouer que sur son piano. Je ne vois pas dans quel état, mais il devait être quand même un petit peu de travers quand il est arrivé. Alors, il y a surtout quand même, chez Michel, le refus de tenter l'aventure parisienne. C'est quand même ça aussi quelque chose de très fort sur sa personne. Parce que Michel, il avait été par son ami Samy, je crois. Qui était journaliste à Paris, lui avait dit, viens à Paris, tu pourras faire un chemin, tu pourras devenir l'immense écrivain que tu es et reconnu par les Parisiens. Il a toujours refusé. Et je trouve que là, c'était une marque de sagesse extraordinaire. Il est resté à Brive. Il n'a pas cherché d'être reconnu, d'être célébré. D'ailleurs, combien avait-il de rosaces à sa boutonnière? Je crois qu'il n'en avait pas. Il n'en a jamais voulu. Il n'en a jamais demandé, d'ailleurs. Voilà, tout ça, c'est un peu Michel. Autre chose qui me plaît beaucoup, Michel, disait Martine tout à l'heure, il parlait de la canne en disant que c'était pour les vieux. Donc lui, il marchait sans canne. On me raconte, et c'est Martine aussi qui me l'a raconté, qui nous l'a raconté, un jour, ils avaient perdu Michel. Il avait bien 99 ans et peut-être pas loin de 100. Où est Michel? Fallait le chercher. Eh bien, Michel, il était parti, comme il allait tous les mardis voir au marché. Eh bien, il était parti au marché tout seul, comme un grand, sans canne, et pour, évidemment, visiter les gens qu'il connaissait. Alors après, je crois que Martine, discrètement, avait demandé à ce qu'on l'accompagne de loin, mais en se cachant, pas lui montrer qu'il était accompagné. Je trouve ça magnifique. Michel ne se prenait pas pour un vieux. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Il a dû faire un jour un voyage du troisième âge. Vous savez, bon, on va à Rocamadour et on raconte le bon vieux temps. Et puis après, il y a l'accordéon et après, on danse. Ce n'était pas du tout dans son truc, ça. Donc, il est revenu en se disant que c'était bien la dernière fois qu'il ferait un tel voyage. Alors, on pourrait continuer. Je vais peut-être finir mon temps. On pourrait continuer comme ça, beaucoup. Je pourrais encore en raconter des histoires sur Michel, mais bon, je vais quand même passer un peu la parole à des gens sérieux, c'est-à-dire mes collègues.
Merci, merci. Merci Gilbert. Tu nous as mis dans le bain et on verra s'il reste un peu de temps à la fin, tu nous liras un petit extrait.
Ce que je voulais dire aussi, les derniers mots de ce livre inventaire, avant fermeture que je vous conseille, il aurait fallu parler de ses paroles, enfin plein d'autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que les derniers mots, c'est « Vive la vie ». Et il avait 50 projets de romans dans la tête à la fin de sa vie. Merveilleux.
Ouais, vous pourrez même d'ailleurs retrouver celui qui a été publié après sa mort. Deuxième groupe de nos amis de l'école Michel Peyramore, qui a été un grand moment, de même que ce repas organisé par... Clarisse, qui a été un repas assez magnifique et bien arrosé. Il est parti bien droit, ça je peux témoigner. Mais il y avait son école, ça a été un grand moment lorsque de son vivant, on a donné le nom de l'école Saint-Germain à Michel Peyramore. Ça a été un très grand moment et les enfants lui rendent hommage. Allez, vas-y.
Le mystère ouvre ses portes le soir et les referme le matin.
Très bien.
La nuit, le petit dieu des haïkus vient frapper à ma fenêtre.
Un tourbillon de pétales surgit soudain d'une chine noire.
Dans l'aube du printemps, les mésanges se racontent les rêves.
Bravo Raphaël, Léo, Otini et Lise. Bravo. Alors... Dans leur deuxième témoignage, c'est Jean-Guy. Allez, Jean-Guy.
Voilà. J'ai choisi de vous lire les premiers paragraphes des Escaliers de Montmartre, qui est le premier tome d'une suite romanesque éditée aux éditions Robert Laffont, consacrée à Suzanne Valadon. Et je trouve que ce projet très abouti, consacré à une femme extraordinaire, révèle bien ce qu'est Michel. C'est-à-dire, tout d'abord, une immense tendresse pour les femmes qui parvenaient à se créer un destin. Et ça, c'est tout à fait, c'était tout à fait un axe dans son œuvre. Également, vous percevrez la fluidité de son style, la sensibilité de ses évocations, la sensualité également de ses évocations. Et puis vous verrez que on sent bien que le cœur de Michel est du côté de l'humilité, c'est-à-dire cette petite fille qui respire au carreau d'une nuit d'hiver, avec des carreaux sur lesquels se forme du givre. Elle incarne l'humilité. Et l'entrée dans ce destin extraordinaire de Suzanne Valadon se fait par l'intermédiaire d'une petite fille, avec un sens du détail qui dit, au fond, le général, qui dit le monde. Le monde est contenu dans chacun des détails que Michel nous livre. Donc je vais vous lire les premiers paragraphes de ce très beau texte. Durant la nuit, quelle fée a déposé sur les carreaux de la fenêtre ses fleurs de givre ? Pareil à de grosses araignées blanches, elle dévore l'espace de vert grisâtre et escalade le ciel au-delà du mur de la cour. La fillette s'est levée. Elle a jeté sur ses épaules la lourde pèlerine de sa mère et s'est approchée de la fenêtre en effleurant le parquet nu de la pointe des orteils dans la lumière limpide et froide qui vient du dehors. Le premier carreau est juste à la hauteur de son visage. Par jeu d'un geste de défi, comme pour annuler l'espace, elle y colle ses lèvres, y écrase son nez, grimace. Cela a le goût de la poussière et l'odeur puissante du crottin qui stagne sur le sol. D'un coup de langue, elle laisse sur le verre des traces humides et de petites bulles. Dans la cour, traversant un carré de ciel mauve, de murs gris, de terre piétinée, sa mère vient de passer portant une lourde panière de linge humide. Il est encore tôt, mais déjà la neige est foulée, comme par le passage de la troupe. Dans la pénombre du matin, le clocher de Bessines libère quelques notes claires. Il doit être 8 heures.
Donc, merci. Donc, c'est un extrait du livre que Michel Peyramort a consacré à Suzanne Valadon, pour laquelle il avait une vraie admiration. Alors, les jeunes du groupe Michel Peyramort, Lucas, Alissane, Olivia et Alia.
Une grosse averse se fait les griffes contre ma fenêtre.
Une armoire de laque noire chargée des rêves accrochée à ses portes.
Ce chant de grillon, le soir sur la plage, rappelle de nos origines.
Somnolence matinale, une dentelle, on voit le jour à travers.
Voilà, bravo. C'est pas improvisé, ils ont travaillé tout ça en... On rendra hommage à ceux qui les ont fait travailler tout à l'heure. Christian Signol nous a rejoint. Bonjour Christian. Qui est, voilà. On lui fait une pause dans son marathon de signature et on lui passe tout de suite la parole. Il va nous dire ce qu'est Michel pour lui et pourquoi il a choisi ce texte et en quoi il ressemble à Michel.
Bonjour, merci. Michel était un ami très très cher qui m'a beaucoup aidé à mes débuts et du début jusqu'à la fin d'ailleurs. Quand il était journaliste, et puis par ses conseils, etc., etc. Il me manque beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai choisi un petit texte de l'Orange de Noël, le métier d'instituteur, puisque moi-même j'ai beaucoup écrit sur l'école primaire, une si belle école, et puis l'école des beaux jours. Et donc je vous lis ce passage, dans laquelle l'institutrice dit... Ne vous tracassez pas, mais laissez-moi faire encore un essai. Cette petite, vous ne l'avez pas comprise et vous n'avez fait aucun effort pour l'aider. Elle est différente de vous et de tous les gens de ce village. Moi-même, elle me déroute et me dérange. Sous ce fatras d'incohérence, je devine une belle intelligence et une sensibilité toute neuve. La difficulté avec elle, c'est qu'on ne peut pas la contraindre sans la brimer, ni lui laisser la bride sur le cou sans qu'elle s'égare. Il faut la surveiller sans en avoir l'air, mais avant tout, s'intéresser à elle, entrer dans son jeu pour le maîtriser et l'orienter. Il faut surtout l'aimer. Je vous demande la permission d'aider Malvina et de l'aimer. Si je me trompe, le mal ne sera pas très grand. Elle retournera garder vos vaches et nous n'en parlerons plus. Mais je suis sûr que nous allons réussir. Voilà quelle était la philosophie et la psychologie des instituteurs, des maîtres d'école du début du siècle dernier. Et mon souhait avec vous aujourd'hui, c'est qu'il en soit de même aujourd'hui. Mais pour ma part, je n'en doute pas.
Puisqu'on parle d'école, je peux donner un petit témoignage. Parce que lorsque Michel est venu habiter à avenue Édouard Herriot, de son bureau donnait sur la cour des maternelles, de l'école que je dirigeais. Et à chaque rentrée des classes, Michel Peyramort me faisait son commentaire, parce qu'il me disait le calme est fini, mais les heures de récréation, il les connaissait par cœur. Et il connaissait tellement bien les instituteurs et les aides maternelles qu'il était capable de me dire le jour de la rentrée celle qui avait changé. Et il me disait, oh là, mais celle qu'il y avait l'an dernier, qui était brune, là, et qui était... elle n'est plus là. Je dis, non, Michel, elle n'est plus là. Les avait toutes. Et donc, je lui avais dit, finalement, je n'ai pas besoin de mettre de vidéo de surveillance de l'école. Tu es là, toi, pour assurer ça. Mais il me dit, je ne dénoncerai personne. Ce n'est pas dans mon tempérament, m'avait-il dit. Voilà, c'est bien du Michel, ça. Troisième groupe. Alors, On est à Lou, c'est ça? Oui, Lou, Mila, Camille et Lilia.
Heure de récitation, le jardin bourgeonnant de la cour d'école.
Pluie vieille comme le monde, silence déterminé.
D'ailleurs, voilà.
Pluie vieille comme le monde, silence déterminé sur un mur de solitude.
Bravo. Ça arrive, au meilleur.
Sur un mur d'encre noire, le vent inscrit des souvenirs de nacre.
Bravo ça.
Des neiges d'acacia sur les berges de la Dordogne.
C'est pour toi, Christian, ça. Hein, c'est pour toi, ça. Ouais. Alors, après, parce que on a donné la parole au briviste hein, de la bande, là, hein, Christian Signol, encore qu'il est un peu lotois. Enfin, bon, la synthèse du Lot et de la Corrèze, ça peut marcher. Yves. Alors, Yves Violier, donc, qui nous vient de Vendée. Et qui était dans la bande de ce qu'on a appelé une école et que, à mesure que je fais des rencontres avec eux, je découvre surtout que c'était une bande de joyeux copains et de joyeux lurons. Mais peut-être que l'école, après tout, n'est pas assez festive. J'en sais rien, le directeur nous le dira.
Alors, j'ai retenu, quant à moi, le livre de Michel, « Le printemps des pierres ». Son éditeur et ami Jacques Peuchemort disait que c'était son grand œuvre. Et tout de suite, quand la question m'a été posée, j'ai pensé au Printemps des pierres et ça m'a obligé à remettre le nez dedans. Et je m'aperçois qu'on a, pour une grande part, ignoré le talent, je dirais le génie de Michel Peyramort. C'est un livre d'une richesse à la fois de documentation, et à l'époque, il n'y avait pas les Internet, il faisait sa propre documentation, je ne sais pas où il allait chercher tout ça. Et puis aussi, ça n'est pas simplement un romancier de l'histoire, il y a un lyrisme véritable dans son écriture. Et j'ai envie de vous lire la toute première page du Printemps des pierres, où là, on découvre le ton Peyramort et vraiment... le ton d'un grand écrivain. On est donc au moment de la construction de Notre-Dame de Paris. On va construire Notre-Dame de Paris. Ils ont creusé très vite et très profond. Des humus de l'île, entre les carcasses des maisons incendiées ou abattues, ils ont remonté des pierres étranges gravées de signes ou de caractères d'un autre temps, animées de gros muscles de dieux et de déesses, de visages qui paraissaient sculptés par des enfants, d'images indistinctes figées sous le gras de l'argile, puis des pétales de silex éparpillés, de noires poteries confondues avec le terreau et la cendre, puis des coquillages pris dans la gangue des roches pourries, des galets, la boue des origines, et enfin, à pleine seille, une eau verte bordée d'une écume grise. Depuis des mois, ils sont là, au fond des gigantesques tranchées, arrachant aux falaises molles toujours plus de terre et de pierre, ils se meuvent avec une lenteur de fantôme. Lorsqu'ils se reposent, adossés à la paroi, transis les pieds dans l'eau froide de mars, ils ressemblent à des chrysalides qui palpitent pour se libérer de leur carapace de sommeil. Ces hommes, on ne peut rien leur dire, leur lancer par exemple « Et toi, secoue un peu tes fesses !» Ils sont englués à la terre qui colle à leurs membres, les alourdis irritent leur peau. À trop se presser, ils risqueraient de crever sur place comme des chevaux forcés. Parfois, lorsqu'un pan de falaise pourri menace de s'écrouler, on leur crie de s'abriter en vitesse. Perdus dans une nuit froide, entre des veines de terre jaspée et des murs anciens où se marient la brique et le mortier blanc de Rome, ils vivent dans un temps qui n'est plus le leur. À la dérive, entre deux tranches d'éternité, ou parfois, lorsque s'éventre une paroi éclate le rire d'un Dionysos de pierre. Cette terre-là est pleine de diableries. Sans la fatigue qui leur colle à la peau, ces larves d'hommes deviendraient folles. La nuit, ils se réveillent en sursaut, repoussent de leurs mains craquantes d'argile sèche des falaises d'où suintent des haleines de soufre et des rires païens. Ils rêvent d'une cathédrale qu'il suffirait de construire pierre à pierre, sans fondation, sans rien demander d'autre à la terre que d'en supporter le poids. Et ils voient l'escalier de lumière escalader des espaces d'air vierge, plonger dans un ciel sans sortilège et sans terreur, ne s'arrêter qu'au niveau marqué par le maître d'œuvre, au bouquet de la Vierge, placé avec la croix noire du forgeron au sommet de l'édifice. Le lendemain, à l'aube, l'enfer s'ouvre de nouveau. Voilà comment il lance la construction du printemps des pierres. Quand je vous disais que c'était un lyrique, Michel Peyramor, déjà, à la première page, il le prouve.
Alors, puisque vous avez été bien respectueux du temps, ça nous laisse peut-être le temps de prendre une petite pause là. Et moi, je voudrais demander à Martine, elle ne sait pas, hein, mais je demandais à Martine si elle pourrait nous dire comment son père écrivait. Parce qu'on a tous connu Michel Peyramor. Je me rappelle une anecdote, on était à une fête du livre à Perpesac-le-Blanc qu'avait organisé la sœur de Bernadette Michelet. Et Michel Peyramor était là, et on a signé des bouquins, on a fait un casse-croûte qui était un vrai beau casse-croûte, et Michel a pris sa montre, a dit « Je rentre, je vais écrire ». Et je peux vous dire qu'après ce qu'on avait mangé et bu, l'idée n'était pas à l'écriture. Il rentrait, il écrivait, c'est-à-dire qu'il écrivait tous les jours, quoi, en fait.
Absolument tous les jours, oui. Je sais pas si le
ça marche.
Oui, ça marche. Ouais. Oui, absolument tous les jours, et même je dois dire qu'en vacances aussi. En vacances, il emportait sa petite machine à écrire. Et oui, il en a eu plusieurs. Moi, j'en ai dénombré 5 avant qu'il ait sa pomme, comme il disait, ouais. Son ordinateur, qu'il appelait sa pomme, et qui était en fait un traitement de texte amélioré, parce qu'il... précédemment, il travaillait uniquement sur ses Remington ou je ne sais plus, Olivetti. Enfin, là, il en a eu 5 ou 6, je ne sais plus combien. Et il écrivait tous les jours.
Il écrivait vite, apparemment, non ? C'est quelqu'un qui... Ça m'a frappé. Moi, quand j'allais chez lui, il tapait sur ordi. Il y avait très peu de corrections, en fait. Une fois qu'il était dans son sujet, il avançait, quoi. Ça m'a beaucoup surpris, ça.
Et c'est sa formation de journaliste à la locale, hein, comme il disait. Ça, il fallait... pisser de la copie, comme il disait. Il fallait pisser de la copie pour le quotidien. Ouais. Donc, ça, il a eu tout le temps... il a eu cette formation. Et puis ensuite, ça venait, même pour des romans qui se passaient très loin de son univers et pas de la locale, que ce soit Cléopâtre ou autre... ou les îles Marquises, je ne sais quoi, ça venait très vite.
Ouais. Non, je vais vous dire ça parce que hier soir, par exemple, il y a eu j'ai entendu cette même façon d'écrire pour deux personnes différentes. Hier soir, pour Simenon, apparemment Simenon aussi travaillait comme ça très très vite, et le frère, le compagnon de presse d'Éric Fotorino, Laurent Greisheimer, qui vivait partie du temps dans le Lot et qui est parti subitement la semaine dernière, était capable, écrit Fotorino, quand il fallait boucler au monde, de sortir un papier extrêmement charpenté en très peu de temps, quoi. Et Michel avait gardé cette âme de journaliste, en fait. Et on sent le journaliste à travers ses livres, quand même, non ?
Il menait de front les deux. Ouais. C'est-à-dire, jusqu'à sa retraite, il était journaliste dans la journée. Et ensuite, il se mettait à son bureau pour écrire ses romans.
Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est, il semblerait que Michel, alors ça c'est très dur à faire, il laissait un texte, et lorsqu'il reprenait le texte, ça, il repartait, et très vite, il re-rentrait dans le sujet, quoi. Ce qui n'est pas quelque chose de facile, enfin, me semble-t-il, je ne sais pas.
Non, je crois qu'il lâchait dans sa tête, ça continuait à tourner. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il était présent et à la fois présent et un peu absent aussi. D'accord. Il faut bien le dire.
Mais quand on allait chez lui, il s'arrêtait et il nous disait « Descends, on va prendre un whisky ». Donc, il prenait le temps de se poser aussi. Enfin, on l'a tous vécu, ça, hein, de « Descends, on va prendre un whisky ». Si je ne me trompe pas, Justine, Lia et Gaspard, voilà, devraient venir nous dire du Michel Peyramore. Parce que maintenant, on dit du Michel Peyramore.
Une mer de graisse entre deux oliviers, le bonheur illumine le monde.
La nuit, parfois, la poésie vient m'affleurer. J'allume ma lampe.
Ma montre s'est arrêtée cette nuit sur la rive du temps.
Bravo. Alors, on va donner maintenant la parole à Martine. Martine, donc, qui était en grande proximité avec Michel, comme Jean-Paul, hein, comme toute la famille, quand il allait à l'INIRAC. D'ailleurs, il doit y avoir à l'INIRAC, je crois, quelques machines à écrire encore, non ? Si mes infos sont bonnes, c'est ça ?
Oui, et il y en a une dans le jardin.
Et Martine, donc, a accepté de aussi parler un peu de son papa et de choisir un texte. Elle va dire pourquoi elle a choisi ce texte et pourquoi ce texte parle si bien de son papa.
En fait, ce qu'il pensait pouvoir être une suite à son inventaire avant fermeture. Donc, en fait, il n'avait pas décidé de fermer complètement. Et à l'approche de ce qu'il appelait son centenariat, il a voulu tenir une sorte de journal qui pouvait être une suite de cet inventaire et qu'il souhaitait intituler « Devant la porte noire » parce qu'il en parlait vers la fin de sa vie, il parlait beaucoup de cette porte noire. Quand on se retrouve devant la porte noire, ça symbolisait la mort. Donc il avait commencé à prendre des notes, c'est une sorte de journal qui, dans sa tête, faisait une suite à son inventaire. Donc moi, j'ai sélectionné quelques journées.
Enfin, on a le temps, donc tu peux...
Mais je vais quand même en passer, parce que je pense que ça ferait un petit peu trop. Mais je vais vous lire. Alors, le titre, c'est donc « Devant la porte noire » ou « Comment vivre et écrire centenaire ».
C'est un texte qui n'a pas été publié, hein.
Non, ah, que j'ai pu récupérer dans sa pomme, dans son ordinateur. Alors, avant-propos. Dès ses premières lignes, je dois à mes lecteurs quelques vérités sur ma condition actuelle, celle d'un écrivain qui, parvenu à la dernière borne d'un long chemin, a décidé d'entreprendre une ultime confrontation entre lui, les événements, la société et les personnages de son temps. Ma nature d'écureuil, l'un des plus prolifiques thésaurisateurs de son espèce, à ce qu'on m'a dit, m'y a aidé, et mon bagage est encore bien pourvu. Pour mon livre précédent, Inventaire avant fermeture, paru aux éditions Kalman-Lévy, j'avais grappillé dans les jardins du passé et du présent personnages, événements et réflexions, avec comme souci essentiel d'éviter l'influence du romanesque qui n'a rien à voir dans ce domaine. À l'approche du centenaire, je jouis toujours d'une faveur jugée peu banale par mon entourage et par moi-même. Mon supplément de vie, le petit rabiot, comme disait Céline, semble exempt des maux et des soucis qui m'affectent ma génération. Je dois peut-être cette faveur à un arriéré de sagesse. Mon programme sanitaire m'impose le renoncement aux longues promenades, mais pas à l'alcool, dont je n'ai jamais d'ailleurs abusé. De même que pour le tabac, sans ma pipe, devant mon ordinateur, je serai pour ainsi dire désarmée. Dès mon adolescence, l'idée de la mort m'a interrogée, mais sans engendrer d'angoisse, grâce à des lectures précoces d'auteurs romantiques, relues lors de décès de nombre de mes proches et amis. Une vie humaine devrait se conclure comme un baisser de rideau au théâtre ou comme une panne de courant de l'ordinateur. Donc ensuite, voilà, j'ai grappillé moi aussi dans son journal certains passages. Dimanche 21 novembre 2021. mon ermitage urbain. L'ermitage est mon lieu de vie dans une cité qui m'a vu naître et où je mourrai sans doute. Je donne pour certains l'image d'un bénédictin attaché à son pupitre, et pour d'autres, l'image d'un esclave attaché à son banc de galère. Mais la sorte de confinement relatif à mon âge et à mon état de santé est telle que je l'avais souhaité. L'avantage essentiel de mon logis tient au fait qu'il est bien pourvu en meubles et en étagères de bibliothèque. S'il m'arrive en évoluant d'une pièce à une autre de chanceler, je trouve toujours de quoi m'éviter une chute. J'ai passé quand même. Mercredi 24 novembre, les petits aléas de l'âge. Les pièges du centenariat n'ont pas trop affecté mes facultés, notamment auditives et visuelles. Si je porte régulièrement un appareil auditif, c'est sur les instances de ma fille et d'une spécialiste. C'est ainsi que je me suis vue dotée d'écouteurs et sommée de m'en débarrasser que pour dormir. Je fais assez bon ménage avec ces merveilles, au point de m'entretenir avec elles. Ma préférence va à la rouge. Elle se signale à mon attention par une sonnerie, ce dont je la remercie. La verte n'en faisant qu'à sa tête. Je souffre en revanche de l'incurie de la pharmacopée en matière de remèdes aux trous de mémoire. Cette déficience m'oblige souvent à relire des chapitres de mes romans pour retrouver la nature, les faits de mes personnages et la réalité historique. Je ne serais pas surpris que l'on vit en moi l'image du centenaire vieillard et grottant, tout sauteux et cacochime, attaché à son fauteuil roulant pour faire le tour du jardin afin, entre guillemets, de prendre l'air. Les longues promenades sans canne m'étant déconseillées, je me contente d'arpenter les jours de beau temps une allée bien droite du square, avec arrêt sur un banc pour un bain de soleil de quelques minutes, ce qui donnerait au visage un éclat balnéaire, ce dont je doute. Samedi 27 novembre, mes premiers attraits pour l'histoire se résument en une simple phrase, l'attirance floue d'un enfant pour les images, suivie d'une passion engendrée par la lecture. L'histoire ne nous inonde pas comme une vague puissante surgissant soudain du néant, mais plutôt sous forme d'un élixir insidieux, tapis depuis nos origines dans nos gènes. Elle ne s'impose pas, elle attend son heure pour allumer ses feux et nous embraser comme des torches vivantes. Jadis, durant l'été, mes parents et moi nous rendions à bicyclette à environ 40 km de la ville pour un week-end en Quercy. Les miasmes de l'atelier se dissipaient en longues promenades sur les bords de la Dordogne ou dans les rues du pittoresque village de Meyronne. Dans le grenier de l'ancien presbytère, notre résidence des week-ends, j'ai découvert des monceaux de documents poussiéreux, livres de messe et de musique antiphonaire, ouvrage sur la vie des saints en Aquitaine et la biographie d'un sans nom d'auteur, d'un certain Vincentien. J'appris que ce saint personnage, né vers 1620, avait établi son ermitage non loin de Brive, près de la Vézère. Ce lieu allait devenir le bourg de Saint-Viance. Les épisodes de sa vie et de sa mort, ne manquant pas de pittoresque ni d'émotion, l'idée m'était venue d'une biographie romancée. Je n'y ai pas donné suite, sans doute la recension imposée par les documents d'époque m'effarait. De ce rêve, depuis longtemps perdu, dans les brumes de l'histoire, je garde encore la nostalgie. Mardi 30 novembre. On semble avoir oublié l'usage de siffler pour le plaisir. Avez-vous entendu une seule fois de nos jours un promeneur siffler une chanson, ce qui naguère n'aurait étonné personne? Dans l'imprimerie de mon père, au bruit des machines s'ajoutait une ambiance de volière. Tous ou presque, hommes et femmes, y allaient de leurs couplets, souvent repris en chœur. Pour le patron, entre guillemets, certaines de ses rengaines ramenées de son apprentissage à Paris devaient papillonner dans la fumée de sa gauloise bleue. Envers mon géniteur, patron de l'imprimerie, j'ai toujours éprouvé une admiration ambivalente. Enrôlé dans l'anarchie, cet ouvrier typographe s'était fait connaître au plan national par la presse, le livre et par la police. Il a fondé en Corrèze un journal, L'Insurgé, allusion à l'écrivain Jules Vallès. Il y malmenait les instances nationales, ce qui lui a valu des ennuis sérieux au début de la guerre de 14. Sa condition patronale l'a enclin à un glissando, le socialisme bon teint. Surpris et flatté de mon goût pour la poésie, il a publié un recueil de mes premiers poèmes, Sève. Il s'est souvenu avoir jadis flirté avec la muse en me donnant à lire un des poèmes anards de sa jeunesse qu'il a déchiré devant moi, signifiant ainsi que La poésie ne menant à rien, ma place était auprès de lui à l'imprimerie, avec comme perspective radieuse d'être son successeur. Non déclaré en tant que linotypiste, j'ai vécu des années durant comme un ectoplasme flottant dans une brume administrative. Je vais peut-être passer parce qu'il y a beaucoup de choses. Vendredi 17 décembre, la tête de mule que je suis, au dire de ma mère, s'interroge sur ce mystère qu'aucun savant n'a pu expliquer, le temps. Le temps a cette double faculté, être présent dans tous les actes de notre vie tout en demeurant impondérable et invisible. Nous baignons dans un amnios qui n'aurait d'autre vertu que de permettre à la vie de s'épanouir. Le temps entretient ses rapports avec nous par l'intermédiaire d'une mécanique artificielle. Mais si un jour pendules et podomètres cessaient de fonctionner, notre pauvre humanité resterait figée comme marbre entre sa mémoire et des espaces infinis de nuit et de silence. Le temps n'est pas notre ennemi. Le moment venu, seul détenteur des clés de la porte noire, il nous délivrera de nos maux et de nos espoirs déçus. Mercredi 29 décembre, Bernard Pivot a parlé chaleureusement dans le journal du dimanche de mon inventaire. Il a ouvert ainsi la boîte de Pandore. Des demandes d'interviews assaillent l'écrivain, entre guillemets l'écrivain centenaire, encore en activité. Le magazine Le Point m'a réservé 3 pages avec photos et couvertures me montrant dans un mouvement de tai chi sur ma terrasse. Ces nouvelles conditions de vie me contraignent à rompre avec une claustration favorable à mon bien-être. Le téléphone ne cesse de sonner et mon sanctuaire reçoit des brigades de journalistes et de photographes. J'ai parfois l'impression de subir une enquête ou une inquisition. Jeudi 30 décembre, je viens de me procurer le dernier ouvrage du philosophe Edgar Morin pour 2 raisons. L'une, futile, la couverture représentant l'image d'un homme heureux de survivre au centenariat, et le titre de son livre, une belle formule, « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». Je l'ai accompagné dans ses pérégrinations, surtout attaché à son comportement vers la fin du parcours. « Je vieillis avec la fatigue », écrit-il, « il est rajeuni quand l'ardeur me saisit. Je suis possédé par le monde et par l'espèce humaine, possédé par l'amour, le mystère, l'émerveillement, la révolte, possédé par mon daimon. Il m'aurait plu d'avoir écrit ces quelques phrases qui évoquent ma propre condition. J'ai passé là parce que...
On a une fois, peut-être une journée de plus, si on y va.
Oui, mais... j'ai passé. Il y a des choses importantes à la fin.
Allez, vas-y. Vas-y.
Je vais passer ça, oui. Je vais passer ça aussi. Samedi 22 janvier, le sang des autres. Branle-bas de ce matin à la maison, j'ai été sommée de prendre d'emblée le chemin des urgences. Presque dépourvue de globules rouges, j'allais devoir affronter une transfusion sanguine. J'ai subi une longue incarcération à demi inconscient, manipulée par des infirmières masquées et assaillie de piqûres comme Saint-Sébastien. À son réveil, Martine m'a glissé à l'oreille que j'étais sauvée, mais à quel prix ? Le fait de devoir le succès de cette opération à des donneurs de sang bénévoles inconnus n'a cessé de me tourmenter. Toujours est-il que cette transfusion a vite produit ses premiers effets, démarche plus sûre, appétit moins réticent, mais ingestion de nouvelles pilules dont j'ignore la composition et l'efficacité, et survivre sous forme d'alambic. Samedi 29 janvier, dans ce matin brumeux, j'ai assisté à la bibliothèque municipale à une cérémonie qui m'était consacrée quand un mot a surgi dans ma tête, lourd à imaginer, du moins pour ce qui me concerne, consécration. J'ai été assez souvent, dans le cadre de mon activité, l'objet de cérémonies, notamment pour des prix littéraires. Mais celle-ci me dépassait. Allocution chaleureuse du maire et nombreux témoignages de fidélité. « Mon cher père, m'a dit Martine, tu viens de constater la ferveur de tes groupies. Il te reste à fonder un fan club. Demain, j'aurai atteint le centenariat. » Jeudi 3 février, je croyais avoir épuisé le calendrier des festivités du centenariat quand j'étais tenue de répondre après une séance de signature en librairie, à un repas offert par les presses de la cité où j'avais naguère publié quelques livres et qui ont réédité un château rose en Corrèze. Ces agapes hanteront longtemps ma mémoire. J'allais y retrouver autour de Clarisse Hénaudeau, charmante et efficace émissaire des presses, trois des élèves de l'école de Brive, le Creusois Jean-Guy Soumy, le Vendéen Yves Yollier et le Corrézien Gilbert Borde, tous auteurs des presses. Claude Michelet, retenu pour un problème de santé, n'a pu être présent. Durant ce repas, nous avons compensé des années d'éloignement par des anecdotes récoltées dans les foires du livre ou fêtes du livre, autant où Robert Laffont et les presses publiaient nos romans. Un invité civil, Dragan Petrovic, journaliste de La Montagne, a pris durant tout le repas des notes dont il a tiré un bel article illustré. Jeudi 24 février, la guerre, l'embrasement. Je m'étais promis de ne pas commenter l'affaire d'Ukraine, sauf en cas d'extrême gravité, mais les faits m'ont rattrapé. D'un revers de main, Poutine a balayé le jeu d'échecs. La nuit passée, le ciel dans le sud de l'Ukraine s'est embrasé, l'offensive russe ayant débuté sans déclaration de guerre. Le président ukrainien Zelensky s'affirme prêt à y faire face, mais avec des moyens en apparence dérisoires face à des milliers de blindés. Je vais aller vers la fin, là, professeur. Samedi 2 avril, devant les images des villes ukrainiennes réduites en décombres, mes commentaires ne sont que balbutiements d'écoliers du primaire devant le tableau noir. La guerre s'enlise dans les eaux noires d'un enfer digne d'Alexandre, un temps où les pires atrocités étaient courantes. Les correspondants étrangers, témoins de ces événements, opposent une farouche résistance ukrainienne à la folie destructrice de l'armée russe. La neige a fait une première apparition dans la soirée d'hier par un timide floconnement, puis s'est retirée quelques heures plus tard. En revanche, du côté Auvergne, elle s'est déchaînée. Suite à une chute brutale de température, j'ai renoncé au marché traditionnel du samedi matin pour me calfeutrer dans mon bureau où j'ai poursuivi la lecture du roman de Dostoïevski, L'adolescent. Je pourrais me considérer comme un homme heureux si je n'étais obsédée en permanence par l'idée des souffrances subies par les populations du Donbass, du Donetsk et des cités martyrs de la mer Noire. J'ai retrouvé dans un grimoire du siècle passé quelques vers attribués au troubadour Bernard de Ventadour. J'ai tant d'amour au cœur, de joie et de douceur que le gel me semble fleur et la neige verdure. Vendredi 8 avril, une nouvelle m'a bouleversée. Un massacre d'une ampleur terrifiante s'est produit à Boutcha, au nord-est de Kiev. Ce lieu restera dans l'histoire l'équivalent d'Oradour. Plus de 300 habitants ont été torturés, massacrés, abandonnés dans les rues et les ruines. En Occident, ce crime de guerre a soulevé l'indignation. Il semble qu'en s'installant dans cette province martyre, le printemps se soit trompé de route ou de saison. À en croire les correspondants étrangers, le soleil a inondé la contrée de ses bienfaits. Les cigognes cherchent un nid, les fleurs des abricotiers font leur apparition, précédant celle des plantations de maïs et de blé que personne ne viendra récolter. Mercredi 25 mai, retour de croisière. Une dizaine de jours ont passé depuis qu'une ambulance m'a conduit aux urgences, inconscient et baignant dans une flaque de sang à la suite d'une chute à domicile avec blessure. De cette période confuse, je ne garde qu'une mémoire fluctuante du fait de transferts de service, me retrouvant propulsée en gériatrie où une mauvaise surprise m'attendait, positif au Covid, et enfin retour à ma demeure. J'avais espéré une résurrection, je n'en suis qu'à la confirmation de mon état d'épave. Jeudi 26 mai. Mort de Claude Michelet. Ce matin, au petit déjeuner, une nouvelle m'a bouleversée. La Montagne m'a appris le décès, à presque 80 ans, de Claude, mon ami de l'école de Brive, qui s'est éteint dans son domaine de Marcillac, près de la ville. Je me souviens l'avoir encouragé pour l'élaboration lente et précise de sa saga de la famille Vial, en 3 volumes, épopée d'une famille paysanne de la Corrèze. Le succès avait dépassé nos frontières, jusqu'au Japon et en Chine. En proie au Covid, je n'ai pu être présent aux obsèques à l'église Saint-Cernin, dont j'aperçois le clocher de ma fenêtre. À quelques pas du sanctuaire, les écoliers en récréation de l'institution Edmond Michelet se livraient à grand bruit à leurs jeux et des vols d'hirondelles balayaient un ciel maussade. En inspectant la penderie où s'alignent mes vieilles pantoufles, je peux faire le compte de ce qui me reste d'amis des deux sexes fréquentés dans le passé. De certains, ne me reste que leur nom sur un agenda périmé. Lundi 6 juin 2022. Ce matin, comme à l'ordinaire, devant mon ordinateur, mes mains ballantes, j'ai décidé, après réflexion et regret, de mettre un terme à la rédaction de ce journal. Mon anémie l'emporte sur toute autre préoccupation, malgré des transfusions sanguines à répétition. D'autre part, une forme de prémonition me hante d'événements qui pourraient affecter ma famille, mon pays et le monde entier dans les temps à venir. Et je préférerais éviter à mes lecteurs le lamento qui ferait de notre planète bleue un Sahara sans oasis. Mon intérêt doit se limiter à deux événements, la publication de mon dernier roman, Lilas blanc et rose noir, chez Calman Lévy, et la célèbre foire du livre de Brive en novembre. Toujours présent à cette manifestation, je me dois d'y participer, au besoin en chaise roulante. J'espère vous y retrouver bientôt.
Merci Martine. Merci pour ce texte inédit qui parle si bien de Michel et qui se termine par l'évocation des amis partis, Denis et Claude, et puis par la foire du livre. Mais je passe tout de suite pour quelques minutes la parole à Vincent Brochard.
Écoutez, donc, pour ma part, je ne savais pas que Michel Peyramort avait écrit des haïkus. Je l'ai appris à l'occasion de la préparation de cet hommage qui lui est rendu. Et en repensant au dernier roman de lui qu'on a publié, donc qui est sorti tout récemment, son dernier roman, La Terrasse, je me suis aperçu qu'en fait, l'esprit du haïku avait soufflé sur l'œuvre de Michel Peyramort jusqu'au bout, et en particulier dans les derniers ouvrages de lui qu'on a publiés, puisqu'on a publié d'abord des biographies de grandes poétesses françaises, ce qui montre que dans les dernières années de sa vie, il a été extrêmement occupé par la poésie. Et dans ces quatre biographies, on a des biographies de Christine de Pizan, Louise Labbé, Marceline Desbordes-Valmore et Marie de Régnier. Et dans ces biographies, qui sont de très beaux ouvrages, on sent à la fois la fascination qu'il avait pour les figures féminines qu'il décrit, qui ont eu toutes des destinées extraordinaires, et puis aussi la délectation qu'il éprouvait à la lecture de leur poésie. Et puis un autre aspect de l'esprit du haïku qui a soufflé jusqu'au dernier souffle chez Peyramort, c'est le sens de l'humour, je crois. Gilbert a cité ses mémoires qu'on a publiées l'année de son centenaire, Inventaire avant fermeture. Le titre lui-même est un clin d'œil plein d'ironie, d'auto-ironie. Et le livre lui-même est bourré de verve, enfin bourré d'anecdotes. Il est plein de verve. Il est plein d'incidents amusants. Je repense à un moment à des micro portraits qu'il fait dans Inventaire avant fermeture, où il est question notamment, je me souviens de ce personnage qui était une Parisienne qui était venue à Brive en 1940, une réfugiée qui se piquait de spiritisme, et dont il dit que ne pouvant plus faire tourner les têtes, elle avait décidé de faire tourner les tables. Et puis un autre aspect de l'esprit du haïku qui souffle dans l'œuvre de Michel Peyramort, et en particulier dans son dernier roman, La Terrasse, c'est son amour de la nature. Et cet amour de la nature, il le dit dans Inventaire avant fermeture, quand il explique qu'il est resté fidèle à sa province pour, je cite, « travailler fenêtres ouvertes sur la nature ». Et dans son dernier roman, donc La Terrasse, que j'ai ici, le roman se passe dans les monédières, et il dit des monédières que c'est une source inépuisable d'émotions, un bain de douceur sauvage qui agit comme une ambroisie. Et on comprend qu'à travers son œuvre, on a publié La Maison des Tourbières, par exemple, que Michel Peyramort il a sillonné sa région du Limousin de part en part, et qu'il a éprouvé pour cette région une passion inépuisable. Et cet amour charnel de la terre, il s'exprime très vivement dans les très belles dernières pages de La Terrasse. Et ces dernières pages espacent pendant la fauchaison du seigle. Et il évoque à cette occasion, disons, la jouissance qu'éprouve son héroïne à se retrouver parmi le seigle aussi haut, qu'elle, et à faire le geste du faucheur. Et en fait, Michel Peyramort nous remettait des manuscrits qui étaient toujours parfaitement préparés et formatés, et puis auxquels il adjoignait donc en fin de manuscrit une table des matières avec le titre des chapitres. Et je me souviens que quand j'ai reçu la Terra, j'avais parcouru les titres des chapitres et j'étais resté en arrêt devant les titres des deux derniers chapitres de l'ouvrage. Et après coup, ces deux titres, quand on les rapproche, elles m'ont fait penser, elles ont produit sur moi le même effet qu'aurait fait un haïku, en fait. Et je vais vous les lire parce qu'elles sont très belles. Et elles m'ont fait penser aussi au fait que les lettrés japonais, les maîtres du haïku japonais, il était d'usage qu'avant de s'éteindre, ils laissent un dernier poème, en fait, un dernier haïku. Et j'ai lu ces deux titres de chapitres un peu comme un poème d'adieu de Michel Peyramort. Ces deux vers, c'est « Les vraies richesses, l'odeur du seigle mûr ».
Merci. Merci, c'est très beau. Merci beaucoup. Pour terminer, on va revenir vers les jeunes, parce que l'espoir, l'espérance, l'avenir, c'est eux, de l'école Michel Peyramort. J'en profite pour remercier, parce qu'on va rester sur les derniers haïkus, le directeur de l'école, M. Hersan. Merci de cette complicité, cette coopération. Et puis, bravo, je crois qu'on peut les applaudir, parce qu'on dit tellement de choses sur les enseignants que je vais jouer mon petit côté corporatiste, enseignant et prof. Je voudrais qu'on remercie et on applaudisse les professeurs qui sont là-bas au fond et les élèves. Puis, merci, je crois que vous êtes désormais, votre école, par le nom de Michel Peyramort, lié à jamais à la Foire des Livres de Brive. Puis merci aux parents qui sont là, les jeunes, Marois, Lola, Jean-Baptiste, Tala. On vous écoute et vous aurez la conclusion et on se quittera en gardant en tête ces problèmes. Je remercie tous les amis qui sont là et l'école de Brive n'est pas morte. Peut-être qu'il y a dans ces jeunes-là ceux qui seront demain la nouvelle école de Brive.
Perdu dans la nuit, une odeur d'herbe cherche où se poser.
Des paysans regardent passer le facteur pédaler sur un nuage.
Un crépuscule rouge comme un poème de Victor Hugo.
Dans l'aube du printemps, les mésanges se racontent leurs rêves.
Voilà, eh bien, je vous invite à repartir. Oh, pardon. C'était tout ça tellement beau, le rêve. Vas-y.
Ce matin d'été, la mer, pleine de méduses bleues, sous un ciel d'orage.
Très bien. Excusez-moi. Merci à tous. Merci Michel. Merci à toute l'école de Brive et partez avec le rêve des mésanges. Bonne soirée, bonne fin, bonne fête du livre.